part de tous les pays dans le monde. C'est bien sûr lié à l'augmentation du prix du baril, la demande chinoise, tension au Moyen-Orient, le sous-équipement en rapport du pays a créé une situation explosive sur le marché pétrolier. Et parallèlement, on a cherché à s'engager un peu partout pour circonvenir aux obligations de l'opinion publique à réduire les gaz carboniques. Et tout cela fait que les biocarburants sont apparus comme la solution miracle face à une situation pour le moins complexe. Aussi, la Commission européenne a proposé le 23 janvier 2008 de parvenir à 10% de biocarburants dans la consommation totale des véhicules européens dans les 5 prochaines années. La Chine, parallèlement, s'engage massivement puisque ce sont des millions d'hectares de plantations qui sont à l'ordre du jour pour réussir à développer les biocarburants. Et pourtant, parallèlement à ces évolutions, on s'aperçoit que les effets pervers des biocarburants commencent déjà à se faire sentir sur le prix des matières premières, en particulier sur celui des denrées alimentaires. Donc ça donne par exemple, dans un pays comme le Guatemala, le prix de la tortilla, qui est l'aliment de base, a augmenté de 80%. C'est violent. Dans un pays où les gens ont déjà du mal à se nourrir en temps usuel. Et c'était que l'exemple du tout petit Guatemala, mais c'est vrai un peu partout. C'est donc une situation qui est sur le plan sanitaire assez catastrophique. On va voir si les biocarburants permettent malgré tout de résoudre au moins une partie des espoirs qui ont été mis en eux. Donc ça, c'est l'évolution des prix du maïs. Donc, vous voyez que on part de 100 et on arrive à presque 200 et en même pas 2-3 ans. Donc c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire concrètement que le maïs a doublé de prix et les populations n'arrivent pas à suivre. Pourtant, dans son rapport de 2008, la commission environnementale conclut en particulier que le soutien aux biocarburants a été prématuré au regard des risques environnementaux importants associés aux technologies actuelles. Pourquoi ? Donc ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez.
C'était une solution à court terme pour apaiser l'opinion publique. C'était la solution miracle.
Et puis on doit remplacer le pétrole par du carburant et tout la planète. Il faut vraiment énormément d'espace pour cultiver en pétamale, etc. Et il faudrait que tous les méchants produisent uniquement ça.
C'est exact. Donc pourquoi on le fait ?
Parce que ça répond à une demande et les gens se sont dit bah, c'est responsable.
D'accord. Ok. Donc on fait ça et on fait ça éventuellement pour des objectifs de court terme. Hein. C'est ce que vous avez un peu essayé de me dire, quoi. Là, à court terme, il y a une demande, donc on va appeler ça bio, c'est marketing. Ça fait plaisir à tout le monde et. Et on lance la machine. Le problème, c'est que c'est éventuellement une machine qui a des conséquences à long terme. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc là, on est dans une situation où on a massivement adopté des équipements. La question est de savoir s'ils sont sous-performants. Et ça pose ensuite toute une série de questions. Donc d'abord, j'ai commencé à me dire, tiens, on a adopté des équipements sous-performants. Tout le monde sait ça, puisque vous saviez déjà que le colza avait un bilan énergétique négatif. Donc, je me suis dit, ça me rappelle un truc. Comme je suis économiste, nous, on travaille de temps en temps en économie de l'innovation sur un modèle qui est le modèle d'Arthur. C'est un type assez intéressant. Il a effectué le modèle suivant. En fait, son idée, c'est de partir d'un système où il y a N technologies qui sont en compétition, avec la même probabilité de succès au départ. Donc, on va estimer qu'elles se valent, bien qu'elles pourraient ne pas se valoir. Mais peu importe, en fait. Parce que comme il existe des rendements croissants d'adoption, c'est-à-dire que plus une technologie est adoptée, plus elle devient utile, juste parce qu'elle a été adoptée par d'autres, alors on rentre dans un système qui est auto-renforçant. C'est-à-dire que la sélection opérée par les autres agents influence vos choix sélectifs. Par exemple, vous allez prendre un PC parce que tout le monde a un PC, et que c'est plus pratique, plus compatible qu'un Macintosh. Voilà. Donc ça crée une situation de verrouillage, puisque même si tout le monde considère que Macintosh est peut-être plus performant, c'est simplement plus performant d'avoir l'ordinateur le même que tout le monde. Et on se trouve dans une situation de forte irréversibilité. Donc la question c'est, est-ce que les biocarburants sont dans cette configuration? Est-ce que les biocarburants, une fois adoptés, c'est une dynamique qu'on ne peut plus arrêter? Et on dirait que c'est ça, puisque tout le monde a l'air de convenir que c'est pas hyper efficace. Et pourtant, on déforeste massivement partout dans le monde pour réussir à les développer. Donc il se passe quelque chose. Donc est-ce que les biocarburants sont vraiment sous-performants? S'ils ne le sont pas, ça expliquerait peut-être pourquoi est-ce qu'on s'intéresse. Donc voilà, là vous avez les performances en termes de coût de production par litre, en dollars, de l'éthanol et du biodiesel, en fonction des différents types de génération et d'input utilisés pour les produire. Vous avez ici le cycle de vie et encore ici l'énergie nette créée par rapport au pétrole. Donc on s'aperçoit que c'est pas si mal, mais que c'est quand même beaucoup plus cher.
Tu peux juste nous aider à dire les trucs importants parce qu'on est un peu perdu là.
Ouais. Donc vous voyez en fait que par rapport aux modèles de première génération, les modèles de deuxième génération ont permis une grosse avancée en termes de coût, puisqu'on était à 0,54 et on arrive à 0,40, donc on est en train de progresser malgré tout. On s'aperçoit aussi que au niveau du cycle de vie et des émissions de gaz, on arrive à en produire moins qu'avant par rapport au pétrole et qu'en termes de création nette énergétique, on a aussi pas mal progressé sur les produits de deuxième génération par rapport au premier. Donc il y a quand même un bilan qui est en train de s'améliorer. Cependant, il y a quand même des coûts à cette affaire parce que le biodiesel est plus dépendant des subventions que le solaire ou l'éolienne, qui respectivement en 2010 et 2020 n'auront plus besoin d'elles, c'est-à-dire n'auront plus besoin de subventions du tout. Ils vont réussir à s'autofinancer complètement sans aide de l'État. Donc c'est quand même un peu étonnant qu'on se soit attaché à une technologie qui est en mesure, malgré tout, de coûter alors que les autres sont en mesure de rapporter. Ensuite, on se demandait si les biocarburants sont caractérisés par des rendements croissants d'adoption. Fait que les biocarburants s'inscrivent dans une chaîne de production et de consommation modulaire complexe. Ça veut dire qu'ils nécessitent un certain nombre d'équipements qui sont complémentaires. Par exemple, il faut avoir des véhicules appropriés, des voitures, des bus, des locomotives. Il faut aussi avoir des pompes à bioéthanol et des stations de ravitaillement pour les trains qui ne fonctionnent que si elles sont suffisamment approvisionnées par les usines. Donc il faut produire des usines et dans lesquelles on investit que parce que suffisamment de véhicules peuvent en recevoir. Donc ça veut dire que c'est toute une chaîne de production entière qu'on est obligé de mettre en place. Si vous avez par exemple aujourd'hui l'intention d'acheter un véhicule spécifiquement conçu pour les biocarburants, vous allez être embêté parce que il n'y aura surtout pas de pompe pour approvisionner votre véhicule. Donc c'est un peu embêtant. Ça, c'est embêtant dans un pays comme la France, mais dans d'autres pays, les investissements ont déjà été lancés depuis longtemps. Les pompes sont en place. Et tous ces investissements qui ont été faits font que les biocarburants sont de plus en plus efficaces, de plus en plus utiles, simplement parce qu'ils ont été adoptés massivement par un nombre suffisant de gens dans la population. Donc on a atteint le seuil. Finalement, il va falloir donc produire aussi des usines de raffinement, des usines de transformation électrique à la base de biocarburants. C'est ce qui se fait un peu partout, du Brésil aux États-Unis. Et toutes ces usines ne seront approvisionnées que par l'accroissement du nombre d'hectares de terre et l'intensification agricole. Donc on va essayer de regarder un peu ce qu'il en est pour le détail. On voit que la dynamique est enclenchée. Les constructeurs automobiles allemands sont prêts à porter à 20% de la part de leurs véhicules pouvant fonctionner au biocarburant, contre 6% aujourd'hui. Donc ça fait quand même une augmentation importante. On voit que en Argentine, on achète deux nouvelles centrales destinées à produire de l'électricité à partir des biocarburants. On voit que la SNCF, ici, s'équipe de trains qui, au lieu de rouler au nucléaire, alors qu'on est quand même l'une des premières puissances nucléaires mondiales, le nucléaire se fait supplanter par les biocarburants. Donc c'était assez surprenant. La ville de San Francisco s'est entièrement équipée en véhicules destinés aux biocarburants. Et l'Union européenne soutient tout ça. Pour ça, il faudra 700 000 hectares en plus de l'utilisation des jachères pour réussir à obtenir l'objectif de 10%. Ces cultures donc, qui sont aujourd'hui à destination alimentaire vont devenir des cultures destinées au colza à des fins énergétiques. Ça veut dire qu'ici aussi, les prix les produits alimentaires vont croître de façon importante. Ça veut dire que le forçage des sols, la déforestation, l'usage de pesticides, de nitrates, la réduction de la biodiversité et l'utilisation des OGM va s'intensifier dans le monde. Donc il suffit de regarder le dernier rapport fait au Sénat là-dessus en 2007. Ensuite, pour réussir à produire tous ces biocarburants, en plus de la terre, il va falloir de l'eau. Et là, on est dans une situation où ça ne sera probablement pas soutenable très longtemps. En effet, en 2050, on estime qu'il va falloir autant d'eau qu'on en utilise aujourd'hui pour nourrir l'ensemble de la planète, pour produire la quantité nécessaire de biocarburants. Donc quand Yann disait ce matin qu'il faut 5 terres pour continuer sur ce rythme, on n'en est pas loin. Et en plus, ça sera même pas la quantité de carburant total dépensé. Donc on estime par exemple qu'aux États-Unis, en 2017, c'est-à-dire dans même pas 10 ans, on va commencer à avoir plusieurs régions qui manqueront d'eau. Donc, la première puissance économique mondiale va manquer d'eau. Mais on est dans cette dynamique. On l'a enclenchée. Les biocarburants sont donc sous-performants, tant économiquement qu'écologiquement. Ils ne sont pas réellement renouvelables, dans la mesure où leur production repose sur l'eau, qui ne l'est pas. Ils sont caractérisés par des rendements croissants d'adoption et des investissements peu recouvrables qui créent une situation irréversible, lock-in, aggravée par les coûts d'opportunité du non-investissement dans des énergies alternatives, donc on l'a vu, comme le solaire, les éoliennes, etc. Et de l'aggravation de la situation sanitaire dans les pays pauvres, puisque s'il y a quelque chose d'irréversible, c'est bien la mort des gens qui sont plus en mesure de se nourrir. Finalement, vous l'aviez supposé, je pense que c'est effectivement probablement la clé. Les stratégies de rétention et diffusion de l'innovation ont biaisé son évaluation au départ. Dans un premier temps, le lobby pétrolier a longtemps réussi à imposer un certain silence sur ce substitut potentiel, puisque nous, on en a entendu parler en France que très récemment. Mais ça s'explique, on est dans un pays qui a la chance d'avoir une entreprise pétrolière conséquente. Je pense que vous la connaissez tous, hein. Et en Allemagne, ils n'ont pas cette chance. Ils ont effectivement une entreprise pétrolière, mais elle est beaucoup plus petite. Et elle a beaucoup moins de poids sur l'économie allemande. Donc ils ont adopté les biocarburants depuis bien plus longtemps. Seulement, avec la pression plus récente sur le marché pétrolier, on a fini par céder. Et finalement, les lobbies s'est ralliés en Europe et aux États-Unis, qui déjà ont réussi à obtenir le maintien de la PAC en Europe, ce qui est quand même très surprenant. Et qui sont aussi très puissants aux États-Unis, ont réussi à obtenir une survalorisation à la fois politique et médiatique des biocarburants. Ils bénéficient ainsi de subventions et de quotas, alors même qu'ils sont moins compétitifs que des pays comme le Brésil, puisqu'on sait que, par exemple, il faut 2500 litres, 2400, voilà, c'est ça, 2400 litres d'eau pour produire le même litre de biocarburant en Chine, alors qu'il en faut que 90 litres au Brésil. Donc il y a quand même des pays qui sont capables de produire des biocarburants de façon beaucoup plus efficace que d'autres. Tant en termes de coûts de production qu'en termes de coûts énergétiques ou de coûts environnementaux. Or, ces pays, comme l'Europe et les États-Unis, essaient de se positionner de façon soi-disant compétitive sur ces produits, mais à coût de subventions, de quotas. Et pour le coup, on perd l'un des seuls bénéfices finalement qu'il y a au biocarburant, qui est que ça permet à des pays comme le Brésil d'émerger en fait et d'obtenir un niveau de développement conséquent. Et eux sont beaucoup plus compétitifs et ils consomment juste 200 fois moins, quoi.
Quelle est la raison technique ?
La raison technique, c'est qu'on a besoin. La raison n'est pas technique, la raison est politique. On a besoin d'être le plus indépendant possible en termes énergétiques.
Pourquoi il y a besoin que 90 litres d'eau, tandis que 3500 ailleurs ? C'est les terres, la qualité des terres ?
C'est.
Ça paraît étonnant.
À vrai dire, je ne sais pas très bien. Oui. Je sais que. Quel est l'institut qui l'a calculé ? L'humidité ambiante, peut-être.
J'avais lu quelque part que la canne à sucre potentiellement était plus appropriée, mais ça pousse pas partout. Ça pousse très bien au Brésil, mais ça ne pourrait pas être poussé ailleurs. Du coup, ailleurs, on utilise d'autres plantes qui sont moins efficaces.
D'accord, qui nécessitent plus d'eau. On passe pas par le même biais.
Non,
je disais colza, et tu n'as pas cité la canne à sucre.
Il y a la canne à sucre, il y a la betterave, le blé, on peut utiliser n'importe quoi en réalité qui comporte un minimum de carbone.
Cette différence paraissait étonnante, avec un coefficient 30 entre les deux, c'est énorme.
C'est énorme. C'est pour ça que c'est quand même très curieux de continuer à s'acharner, à soutenir des politiques protectionnistes qui... n'ont pas de raison d'être en matière agricole. Je ne dis pas pour d'autres domaines, hein, mais... Finalement, donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On est dans une espèce de situation un peu curieuse où on est en partie bloqué sans vraie possibilité de retour en arrière. Donc, il faudrait s'attacher au moins à avoir les meilleures conditions d'efficacité possibles pour les biocarburants. Donc, ça passe par l'amélioration des techniques d'évaluation d'une innovation, qui doit reposer sur des critères plus sains, comme l'impact que ça a sur les pays en voie de développement ou sur les ressources naturelles, afin d'avoir une sélection adéquate des innovations. Et en l'absence de retour en arrière possible, il faut surtout réussir à optimiser, donc ça passe par l'abaissement des protections céréalières aux États-Unis et dans l'Union européenne, afin d'améliorer le solde commercial des pays en voie de développement et le solde budgétaire des pays développés.
Enfin, c'est irréversible, mais en France on n'y est pas encore allé, il faudrait peut-être pas y aller maintenant. Alors, on n'y est pas allé au biocarburant.
Si, on est parti déjà.
On est parti. Il n'y a pas de station encore avec du flex fuel.
On est parti.
Quelques-unes. Oui, mais enfin, on n'est pas encore dans le... On peut arrêter.
Avec le Grenelle, je crois qu'ils ont déjà pris des engagements, 10%, je crois.
D'augmenter ?
Juste une question. J'arrive pas à comparer, enfin, on dit que c'est moins bien le carburant, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, mais enfin, vous n'avez pas du tout dit comparé au pétrole, parce que j'ai dû comparer les deux carburants entre eux, mais comparé au pétrole, c'est si flagrant que ça, enfin, c'est si.
Alors, si, ouais, des chiffres.
Par exemple, produit au Brésil à 90 000 c'est pas sûr, c'est 90 000 euros, enfin, comparé à des consommes de pétrole, c'est pas.
Ce qu'il faut faire, c'est essayer. Il y a deux façons de comparer. Je pense que la façon la plus intelligente pour comparer, c'est d'utiliser le plus rentable des biocarburants de première génération, puisque ceux de deuxième génération, ils ne sont pas encore assez développés pour qu'on ait fait le tour de leur impact écologique. Oui, bien sûr, il faut le faire aussi en prospective. Mais pour l'instant, en l'état actuel, juste en statique, pour essayer de regarder les choses calmement. Bonjour. Je crois que sur le plan purement un litre de biocarburant, ça, pour le faire, il faut 4,57, je crois, litres de carburant. Ça répond à la question. Donc parce qu'il faut prendre en compte l'intégralité de la chaîne. C'est-à-dire que quand on vous dit que le biocarburant est efficace, souvent le problème c'est qu'on ne prend pas en compte l'intégralité de. On ne prend pas en compte la chaîne, le transport du biocarburant. On ne prend pas en compte l'intégralité des coûts. Ouais. On ne prend pas en compte toutes les externalités. Donc sur l'eau, sur les terres qui s'érodent, sur l'intégralité de la chaîne.
Le carburant, si on dit qu'il y a du pétrole et qu'on peut toujours voyager, utiliser les moyens de transport, enfin, on a vraiment pas.
Il y a le nucléaire. Non, mais je veux dire, comment on va faire? Comment on va faire? On a plein d'ingénieurs comme vous pour travailler dessus. On espère que vous allez trouver une solution.
On a l'impression, enfin, moi, qui me fais heureux, donc le carburant, c'est pas la meilleure, mais c'est la seule solution. Enfin, moi, en tant qu'étudiant qui lit ce journal de temps en temps, je veux dire que.
C'est ça qui est grave.
C'est pour ça que je pose la question.
La situation est assez problématique, je crois. On est tous d'accord pour le dire. Donc, la première source d'économie, la première source de énergétique qu'on puisse avoir aujourd'hui est paradoxalement simplement les économies d'énergie. On estime qu'on peut, sans modifier drastiquement notre mode de vie, économiser 30% de notre consommation actuelle énergétique, ce qui est quand même beaucoup. Donc, ça, c'est la première solution. C'est la plus efficace pour l'instant, trouver Azure. Donc, il y a quand même de beaux espoirs offerts par les éoliennes et l'eau, les éoliennes et le solaire, mais c'est petit, quoi. Ce qu'on peut en attendre, c'est petit par rapport à nos besoins.
Alors moi, les éoliennes et le solaire, quand on en parlait, c'est pareil, ils sont remplacés la consommation par les éoliennes et le solaire, c'est pas pour la moitié de la France.
Oui, voilà, c'est ça. C'est encore un peu petit.
Non, mais là, quand même, le problème, c'est que ça mange sur l'alimentaire. Il faut savoir si on préfère crever de faim ou crever de froid.
Ça va. Si on n'a plus d'eau, on crevera de soif avant de crever de faim.
C'est pas nous directement que ça concerne, c'est ça qui est le plus cynique.
Mais si.
Finalement, pour pouvoir faire marcher nos voitures, sur le long terme, on peut
transformer. Non, non, ça, ce n'est que temporaire.
Ça vient.
Ouais. Non, chez nous aussi, le prix des denrées alimentaires a augmenté, bien entendu.
Oui, mais
ça a augmenté de 10 à 30% selon les produits en 2 ans. Mais c'est parce que vous avez la chance d'avoir les moyens de payer 10 à 30% plus cher vos aliments. Ce n'est pas le cas tout le monde en France. Non, et puis, il y a un dernier point. Qui montre à quel point on est allé loin dans cette espèce de truc de science-fiction entre nourrir nos machines ou nous nourrir nous. Et ça, j'ai trouvé ça hyper comique. J'en parlais avec Pascal avant de commencer le séminaire. il y a un Norvégien qui a une espèce de cynisme fabuleux et qui a eu une idée que je trouve extrêmement drôle. Il a décidé d'investir, il est parti vivre aux États-Unis et il a décidé d'investir dans une usine, je suis sûre qu'ils ne vont pas me croire parce que c'est énorme. Il a décidé d'investir dans une usine qui va fabriquer du biocarburant à partir de la graisse humaine extraite des liposuctions aux États-Unis. Il y a un hôpital, comment il s'appelait je ne sais pas quoi, Jackson ou un truc comme ça. Et il produit, cet hôpital, il retire 11 000 litres de graisse humaine tous les ans. Et apparemment, il s'engage à produire la même quantité en biocarburant. On est arrivé dans une espèce d'état de paradoxe assez fort. Mais bon, voilà, c'est probablement ce genre de solution de biocarburant de la seconde génération, peut-être de la troisième ou de la quatrième, dans la mesure où on ne peut pas toujours revenir en arrière, et qui nous sauveront. Donc, à vous de jouer. Oui, donc à un moment donné dans l'exposé, j'ai expliqué que selon les pays et selon les types de biocarburants, on était à des solutions qui se rapprochaient plus d'une certaine efficacité. D'accord ? Donc on sait par exemple que le Brésil est un pays qui est très compétitif sur la production de biocarburants, probablement comme le disait votre camarade, parce que il est en mesure de produire des espèces comme la canne à sucre qui sont beaucoup plus énergétiques que les autres. Donc ces pays-là, ce qui serait assez logique, d'autant qu'en plus on prétend qu'ils sont pauvres et qu'on veut les aider à se développer, c'est de leur laisser libre cours et de ne pas entraver la libre concurrence en cette matière, c'est-à-dire simplement de leur laisser faire leur truc puisqu'ils sont plus efficaces, et nous de faire le nôtre. Or, c'est pas ce qu'on fait. On finance en gros à grands coups de subventions et à grands coups de quotas, on protège nos industries céréalières pour qu'elles fassent du biocarburant, ou pour qu'elles fassent que ce soit des industries de betteraves ou tout ce que vous voudrez, si vous voulez. On protège nos paysans parce que c'est aussi nos emplois, parce que, 50 raisons, mais surtout parce qu'on a très peur d'être dépendant énergétiquement de qui que ce soit. On les protège, et en les protégeant, on arrive à des aberrations parce qu'on est beaucoup moins compétitif sur ces trucs-là, et ça veut aussi dire beaucoup moins compétitif sur le plan environnemental et pas seulement financier. Voilà.
Donc, la conclusion de l'étude, c'est qu'en fait, les biocarburants, ils sont sous-performants.
Ouais.
Mais enfin, c'est vrai à l'échelle globale, si on veut substituer le pétrole par du biocarburant, d'accord. Mais au Brésil, par exemple, c'est performant.
Même au Brésil, on n'arrive pas à être vraiment performant. On arrive à être moins mauvais.
Mais c'est peut-être une bonne solution localement pour certains pays qui ont des facilités. Mais enfin, le danger, c'est de vouloir substituer la consommation de pétrole par le biocarburant.
Oui, voilà.
En Chine, par exemple,
ils n'ont pas un grand territoire et ils ont 1 milliard de gens dessus.
Ils ont des problèmes alimentaires aussi.
Ils ont un problème de tout. Déjà, ils manquent de terre, ils manquent d'eau, ils manquent de tout. C'est très petit comme pays par rapport à la population qui est dessus. Ça paraît être un grand pays comme ça, non, c'est pour rire. Les États-Unis, c'est un grand pays par rapport à la population. Un grand pays, ça veut rien dire. Un grand pays, ça dépend du nombre d'habitants qui est dessus. Les Chinois, ils ont un problème d'espace et c'est probablement ce qui explique une certaine tension avec leurs pays voisins parce qu'ils ont tendance à chercher à s'agrandir.
Cela dit, c'est bien en développant des biocarburants de première génération qu'on arrive à faire des innovations pour les rendre plus efficaces et avoir
bien sûr.
Deuxième, troisième, quatrième. Donc il y a un point qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il est nécessaire de se pencher dessus, faire des recherches. Donc, on ne peut pas juste dire.
Je suis d'accord. Efficace. Il est nécessaire de faire des recherches. La question, c'est de savoir vers où on les oriente. Il y a un coup d'opportunité à se tromper de direction. Quand j'investis 100 euros sur vous qui travaillez sur les biocarburants, je les investis pas sur lui qui va travailler sur l'éolienne.
Ça, c'est le même problème que
c'est un risque.
C'est une
C'est un risque. Et si pendant que je cours ce risque avec vous, vous assassinez la moitié des gens, entre guillemets, parce que vous affamez la planète, c'est un peu un risque embêtant quand même.
Oui, cela dit, elle mourra de toute façon.
Vu comme ça, effectivement, on peut aussi se suicider tout de suite ensemble. Ah oui, non, mais il n'y a pas de problème.
Je voulais rebondir là-dessus. C'est toi qui disais que tu étais peu informé. J'ai passé une année en Allemagne. En Allemagne, ils sont très informés sur la question. Les magazines hebdomadaires standards parlent de ça tous les mois, actuellement. Et ils ne sont pas aussi pessimistes que vous avez l'air de le dire.
Ils sont informés par ces écoles qui payent le journal, qui fait l'article.
Des millions d'Allemands qui achètent le journal magazine toutes les semaines, qui s'informent et qui font en quelque sorte un rétro-contrôle sur des bases d'études justement qui décrivent ces différentes technologies. Donc les premières générations sont sous contrôle, voire néfastes.
Mm-hmm. Ce que j'ai vu, moi aussi,
c'est que les générations futures sont plutôt
meilleures
et pourraient pas être un substitut réel au pétrole, mais quand même apporter solutions, notamment pour des pays comme la Mongolie qui a des surfaces potentielles énormes d'agriculture.
Mais ces surfaces, elles sont actuellement utilisées de différentes façons. Toutes les terres aujourd'hui sont utilisées de différentes façons. Il y a celles qui ne sont pas utilisées. Et ça veut dire qu'en gros, il y a des forêts, il y a des oiseaux, il y a des espèces dessus. Et puis, il y a celles qui sont utilisées. Et ça veut dire qu'on mange avec le produit de ces terres.
Moi, ce que j'ai lu, c'était pas aussi radical. Ça avait l'air de dire que c'était tout à fait possible de concilier l'alimentation mondiale, la biodiversité et un espace réservé à l'énergie.
Mais je le souhaite. Je le souhaite.
Par contre, c'était très critique sur...
Non, le problème, c'est qu'effectivement, les produits de deuxième génération, ce qui est pas mal dans un certain nombre d'entre eux, c'est qu'ils n'utilisent pas, justement, les hectares de Mongolie ou d'ailleurs. C'est que, éventuellement, on utilise, j'en sais rien, pour rire, cette histoire de graisse de liposuccion, mais enfin, on peut utiliser aussi bien la litière des chats, l'huile usagée des cuisines on peut utiliser toutes sortes de choses qui sont du recyclage et qui, éventuellement, peuvent apporter quelque chose. Mais vous voyez dans quelle proportion ?
Et à quel prix ?
Le seul point que j'ai pas lu dans ces études allemandes, c'était l'impact de l'eau. Ils n'étaient pas aussi affolés par.
Non, ça ne les dérange pas parce que c'est les plus grands pétrochimistes au monde. Donc ça veut dire que c'est les plus gros fabricants de pesticides au monde. Donc évidemment, ils ne s'inquiètent pas eux trop de cette question-là.
Non, mais au moins, pour une remarque générale, c'est un pays où au moins il y a une.
Non, globalement, la population s'intéresse parce que c'est un pays qui a connu sa révolution industrielle dans des proportions très très fortes et qui donc s'est vite aperçu je veux dire, ils ont eu une accélération dans leur croissance qui leur a permis de vite comprendre que là, ils exagéraient. Ils ont vite ressenti les effets de la pollution, plus vite que nous. Et comme ils les ont ressentis plus vite que nous, ils se sont attaqués plus tôt. Ils ont commencé depuis les années 70 à se préoccuper des choses qui nous préoccupent aujourd'hui. Malgré tout, ils n'ont pas encore trouvé les solutions, peut-être parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, peut-être aussi parce qu'ils ont leurs problèmes de conflit d'intérêts internes, eux aussi.
Ce qui est par contre tout à fait juste, c'est la concurrence faussée et la compétitivité économique et environnementale faussée par ce système de subvention. C'est une aberration.
Dans cette matière-là, peut-être que pour d'autres, ça se justifie et dans d'autres contextes. Je ne suis pas anti-protectionniste par principe. Je suis anti-protectionniste quand il s'agit d'un pays développé contre un pays en voie de développement et quand il s'agit d'un pays développé qui est en train de foutre en l'air toutes ses réserves d'eau.
Il y a eu la suppression de ces quotas. Donc déjà, eux, ils produisent moins, donc niveau effectif, niveau rentabilité, c'est pas terrible. Alors si en plus, on leur... Comme on leur a supprimé ces quotas au niveau sucre, et qu'ils ont rebondi en créant des distilleries, des centrales à biomasse, enfin, ils sont... Toutes les sucreries européennes sont en train de diversifier leur production en justement en créant des distilleries, en produisant du bioéthanol et des carburants de toutes sortes, donc, de la betterave et de la canne à sucre. Et donc je ne fais pas l'avocat du diable, mais c'est vrai que si jamais on supprime encore ces quotas-là au niveau des carburants, l'industrie sucrière et puis c'est qu'un exemple, hein, je suppose. Ça va être un peu partout, les autres industries peuvent être touchées par ça. Si on leur supprime non seulement les quotas au niveau alimentaire et les quotas au niveau carburant, l'industrie européenne, non seulement sera plus compétitive, mais elle.
Et vous imaginez si, au lieu d'utiliser vos impôts pour faire ça, on les utilisait pour investir dans des gens aussi intelligents que vous?
Non, mais oui, je dis ça.
J'espère que ça rapporterait beaucoup plus au pays.
Non, je suis tout à fait.
Et qu'avec ça, vous pourriez payer des impôts pour financer le chômage des autres.
Dis-moi, non, mais je suis d'accord avec votre discours, mais là, je.
Non, mais c'est ma réponse.
Je change juste de point de vue.
Oui, mais bien sûr.
En exprimant le point de vue de l'industrie.
Je comprends son point de vue, mais je dis que des gens aussi intelligents que vous devriez recevoir plus d'argent pour en rapporter plus à la nation et pour que vous payiez pour ces gens-là.
Non, mais l'industrie sucrière est morte pour produire du sucre en France, on le sait ça, hein. Dans 5 ans c'est fini, il n'y a plus d'industrie sucrière en France, parce que le prix actuellement est subventionné par 2.
La subvention c'est pas la solution, la solution c'est d'investir dans quelque chose qui va rapporter.
La question c'est, est-ce qu'on va continuer à faire des betteraves ou on fait des céréales dont le prix augmente extrêmement fort et qui est une solution pour la faim dans le monde? Est-ce qu'on va faire des betteraves pour faire du flex fuel pour maintenir l'industrie sucrière? C'est une vraie question. Franchement, là il faut se poser des questions.
Les gens qui vont rapporter quelque chose, j'étais très sérieuse tout à l'heure, vous avez cru peut-être que j'étais ironique, mais c'est vous. Donc moi, si j'ai des impôts à dépenser, je les dépense sur vous, je ne les dépense pas sur des betteraves. Quoi. Si on me prend de l'argent de mes impôts, c'est pour vous. Parce que vous, je pense que vous allez me rapporter plus que des betteraves. J'espère. J'espère que vous le pensez aussi, sinon on est mal. Quoi.
Au niveau politique,
ce qui est rassurant et qui en même temps est inquiétant, c'est que le FMI, la Banque mondiale et la plupart des organisations internationales qui ne sont pas des plus charitables en temps normal sont d'accord avec l'idée que les biocarburants ne sont pas la solution, ni pour la planète, ni pour la consommation de leur 4x4. Donc, je ne sais pas expliquer, à part pas au départ quelques lobbies et le fait qu'on est engrangé dans une dynamique où on ne s'arrête plus, cet acharnement. Donc je ne sais pas comment on peut l'enrayer. Ce que je pense, c'est que maintenant qu'on est parti là-dedans, il faut des gens comme vous pour trouver une troisième génération qui, là, peut-être sera vraiment efficace.
Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas. Là, on prend peut-être aussi le cas où on voudrait tout remplacer par les biocarburants, alors qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas avoir un seul carburant qui remplace un pétrole. Donc, l'éolien et le solaire, on peut toujours investir dessus.
Pourquoi pas? Personne ne pensait qu'on pourrait remplacer le charbon.
Oui, peut-être, mais bon, il faut envisager toutes les pistes qui peuvent se demander.
Ouais.
Je trouve qu'on est en train de faire les mêmes erreurs qu'avec le pétrole, et qu'on veut utiliser une seule ressource pour notre consommation, donc il faudrait utiliser un peu tout selon les facilités locales. Pour moi, il n'y a pas une solution qui va subvenir à toutes les autres. C'est pas l'éolien qui va répondre à toutes nos besoins énergétiques. C'est un peu de solaire, un peu d'éolien, un peu de marée motrice, un peu de biocarburant, c'est un peu de tout. C'est aussi changer notre mode de consommation, on ne peut pas.
Parce que c'est extrêmement intelligent.
On ne peut pas garder le même mode de consommation.
Je crois qu'effectivement, la diversification énergétique, c'est le plus gros argument, en fait, des gens qui sont pour les biocarburants. Et c'est un argument que je partage tout à fait, parce que c'est quand même très intelligent de diversifier le risque.
En fait, ce que vous reprochez surtout, c'est le foncier les yeux fermés dans les mieux conscients.
Ouais. C'est de ne pas avoir une analyse pragmatique des choses avant de s'engager dans un système qui est auto-renforçant. Donc, quand on sait qu'on va s'engager dans quelque chose qui est auto-renforçant, où on va avoir besoin de mettre en place tout un système où il se crée plein d'interdépendances comme ça, il faut réfléchir un petit peu avant. Je pense que les réflexions ont été faites. Donc, je pense que ce n'est pas de la bêtise. Je pense que c'est un manque de limpidité et de transparence démocratique. Et ben voilà, ça me choque. Donc, je le dis. Ça sert à rien. Ouais.
Comme c'est un mode de transport, ça veut dire qu'il faut équiper tout le monde, alors que l'éolienne, mettons, elle va pouvoir alimenter un village, une industrie, etc.
Ouais, on n'a pas besoin de transporter aussi loin les.
Non, je voulais revenir sur les protections céréalières parce que vous mettiez en avant le côté de développement des pays comme le Brésil. Et si on rentre dans cette logique-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque que des pays comme par exemple le Brésil foncent tête baissée dans les biocarburants? Ça, c'est un manque à gagner pour leur industrie agroalimentaire. Et c'est encore plus pervers et encore plus dangereux pour leur développement qui commence à importer leur propre nourriture.
C'est juste. Et surtout qu'ils polluent leur eau et qu'ils abîment notre forêt amazonienne à tous. Mais en même temps, c'est, si vous voulez, le seul avantage que le Brésil fasse ça, c'est que quand eux, ils font ça, ils le font moins mal que les autres. Donc ça leur fait moins de mal que ça n'en fait, par exemple, même à la Chine. Voilà.
Donc il y a un bémol par rapport à ce que vous dites, étant donné que, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'ils font des biocarburants à partir de... À partir du canne à sucre, c'est en fait les déchets d'une activité autre qui effectivement est l'activité sucrière. Et donc ça, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles effectivement le rendement en termes d'eau et le rendement énergétique est si bon ou moins mauvais. C'est une des raisons. Par contre, si ça devait se développer, alors là, encore faudrait-il que les besoins en sucre se développent aussi, pour que ce soit les déchets de l'activité du sucre qui continuent à donner un si bon rendement. Alors, ce qui n'a pas de raison d'être, que la demande de l'outil en canne à sucre augmente.
C'est pour ça qu'on n'a plus à produire de sucre en Europe. C'est parce que le prix du sucre a baissé et que le sucre brésilien va venir.
D'accord, mais ça ne peut pas être augmenté ad vitam aeternam. Parce que
c'est les producteurs mondiaux de sucre.
Non, mais c'est
les technologies à venir font qu'on utilisera la planche entière. Si je me trompe.
Oui, bon, d'accord. Enfin, en tout cas, ce qui une des raisons ici et maintenant, une des raisons pour lesquelles effectivement le rendement est supérieur dans les activités au Brésil, c'est ça. Alors, après, il y a effectivement un argument qui est un argument assez massu et auquel des universités scientifiques et techniques comme les nôtres sont particulièrement sensibles, c'est l'argument du progrès technique et du demain on fera mieux. Et effectivement, c'est un argument massu parce que là, on n'a pas grand-chose à répondre. C'est effectivement tous les projets de deuxième génération, y compris ceux à base de production microbienne, je crois, du champignon, sont extrêmement alléchantes. Mais là, on est vraiment dans le domaine de la croyance. Ce qu'il faut bien croire, c'est que là, pourquoi pas. Mais certains croient en Dieu, d'autres pas. Et on peut ne pas croire, dans ce cas-là, ou croire dans le biocarburant. Bien entendu, il y a certains éléments objectifs un peu plus palpables, mais pas beaucoup plus. Hein. C'est-à-dire, contrairement à l'idéologie communément répandue sur l'avenir radieux des biocarburants de seconde génération, on entend absolument partout, parce que maintenant, c'est un fait que les premières générations sont, d'un point de vue bilan environnemental, désastreux, au mieux médiocres, et probablement désastreux, eh bien, on donne tout notre espoir dans la deuxième génération. Mais là, on fait preuve, effectivement, d'un manque. Enfin, on est vraiment des utopistes. Souvent, ce sont les écolos qui sont, parfois à raison, désignés comme étant totalement des rigolos utopistes. Mais là, en l'occurrence, c'est effectivement les industriels ou alors les scientistes pro-deuxième génération qui sont des utopistes. Il faut des utopistes dans la vie. On ne peut pas avancer sans utopistes. Mais mettre tous nos impôts et toute notre croyance, il faut qu'il y ait des croyances aussi dans cette activité de seconde génération, c'est extrêmement... C'est déraisonnable, pour le moins.
Si je me souviens, il
l'erreur politique, là, ça a été de lancer un peu de subventions pour garder une indépendance énergétique et céréalière, un système inefficace, voire technologiquement, et autocontraignant, ce qui fait que maintenant qu'on est lancé, on ne peut que espérer que les technologies futures nous permettent d'améliorer.
Ce qu'on va essayer de dire, mais au début, il y a différentes technologies au même niveau, on va en choisir une, enfin, pas les deux en choisir une au début, enfin, ça peut être ce que je dis, mais bien choisir, on a pris les biocarburants, mais on a quand même pas abandonné totalement les autres non plus, on a quand même les éoliennes, ça se développe quand même un petit peu à côté, le solaire aussi, et le nucléaire aussi, enfin, c'est pas non plus un truc qui a que ça, enfin,
non.
Je sais pas, enfin, à un sens qu'on entend ici, donc il y a que le biocarburant.
Heureusement que non, mais c'est vrai que c'est.
Là, je ne me rends pas compte des 4%, vous avez raison, c'est vraiment, il n'y a quasiment que le carburant et un petit peu d'éolienne, un petit peu de solaire.
C'est-à-dire que je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a eu tellement d'effets d'annonce sur le biocarburant, c'est qu'on a cherché à. C'est aussi un jeu de négociation avec l'OPEP. Et dire, on va passer à 10%, on va passer notre consommation de carburant à 10% en biocarburant, c'est supposé nous donner un peu plus de pouvoir par rapport aux gens de l'OPEP, et donc, voilà, donc il y a des... C'est tout un jeu géopolitique derrière qui ne correspond pas non plus effectivement totalement à la réalité, dans la mesure où il est vrai qu'en parallèle, on investit dans des technologies alternatives. Et je crois que le nucléaire se développe beaucoup en parallèle. C'est-à-dire qu'on vend des centrales nucléaires aujourd'hui partout. Donc oui, bien sûr. Tout moyen d'échapper à l'OPEP en ce moment est bon à prendre pour tout pays développé ou en voie de développement avec des besoins conséquents.
Je crois qu'il va falloir suspendre le débat là. Peut-être un petit mot pour essayer d'agréger les diverses choses qui ont été dites, c'est que une conclusion qui s'impose quand même, c'est par rapport au biocarburant en l'occurrence, mais y compris par rapport à des choix tels que le nucléaire, des lacunes en termes de démocratie technique. Et donc là, je fais référence notamment à l'ouvrage de Calou, de Calon et Le Sourne sur les forums hybrides, enfin justement sur la question des démocraties techniques. C'est qu'à l'heure actuelle, nos systèmes européens sont assez peu armés pour qu'il y ait effectivement un débat participatif de la société sur des méta-choix industriels ou techniques. Et là, on peut voir qu'en l'occurrence, pour les biocarburants, mais ça a été en France pareil pour les nucléaires, il y a un certain nombre de choix importants pour la société qui touchent fortement à la technique et aux gros choix industriels qui se sont faits, qui ont été faits, sans qu'effectivement il y ait une participation citoyenne et sans que l'acceptabilité sociale ne soit absolument instruite. Donc là, un enjeu est, n'a-t-il pas besoin qu'il y ait un renouveau des formes de la démocratie, c'est justement l'ouvrage de Calon là-dessus, qui permette d'instruire davantage et mieux des débats sur des choix techniques et industriels. Voilà.
Ça s'appelle comment le livre de Calon?
Je l'ai acheté, j'ai un trou de mémoire, donc c'est sur son truc, c'est les forums hybrides, c'est faire des forums de consensus où il y a des citoyens et des experts, et le titre, je me souviens. Quelqu'un se souvient, non? Il est sorti en 2006, je crois. Calon, C-A-2-L-O-N, et je crois que son co-auteur, c'est Le Sourd. Bien, peut-être merci Julia.
Alors là, la transition est absolument magnifique, puisque c'était pas prévu, mais si on avait voulu, on n'aurait pas pu faire mieux. Donc, nous accueillons maintenant donc Damien Desjonquières, qui va donc nous faire part notamment d'une expérience dans laquelle il s'est pas mal investi. C'est comment la responsabilité sociale et environnementale peut être déclinée. En tout cas, comment les enjeux se présentent de manière extrêmement limpide, notamment dans le cas d'un secteur minier au Niger, si vous me souvenez bien.
Voilà.
Et je crois que c'est. Oui. Ah voilà, agir dans un monde incertain. Très bien. Agir dans un monde incertain. Voilà, la question de la responsabilité sociale et environnementale dans l'entreprise est extrêmement médiatisée. Souvent, elle reste assez floue et on peut se demander souvent si ce n'est pas des lettres d'intention. Voilà, et il me semble que le retour d'expérience d'Amélie Zoncler est extrêmement intéressant pour voir les termes exacts du débat. Ah oui.
Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Damien Desjonquer. Je vois que vous avez entendu parler d'Areva également à l'exposé précédent. Donc, le lobby nucléaire est là, je vous le confirme. C'est immiscé jusque dans les arcanes de l'UTC ici. Je ne sais pas qui en est le responsable, mais sans doute il y a des complicités dans l'affaire. Très bien. Alors. Moi, je ne viens pas ici, je ne sais pas si ça a été fait avant, je n'ai pas eu l'impression, je ne viens pas ici pour vous vendre le nucléaire. Je n'ai ni envie de vous le vendre, ni envie de vous en dissuader. On aura l'occasion d'échanger, je crois qu'on a une heure pour nous. Je vais essayer de présenter une expérience, je vais vous présenter en deux mots le groupe Areva, ça vaut quand même le coup. Je me présenterai aussi, je ne vais pas parler de l'intégration, on ne parlera pas, sauf si vous avez des questions, mais je ne suis pas forcément spécialiste de tout, loin de là. Je ne suis pas ingénieur, par exemple, contrairement à une culture qui est plus présente dans cette salle. Donc l'idée, c'est pas de vous vendre le secteur nucléaire, on en parle beaucoup en ce moment, il y a les pour, il y a les contre, tout le monde peut évoluer, être favorable, être opposé. L'idée, c'est de partager une expérience sur un des métiers d'Areva et de parler pas tellement d'environnement, l'environnement qui est souvent prioritaire dans les discussions sur le développement durable, mais plus de ce que j'appelle de social ou de sociétal. Je vais vous présenter de quoi il s'agit. Alors, Areva en deux mots, alors je vais me présenter d'abord en deux mots. Moi, j'ai un parcours un peu particulier, c'est pas le cœur du sujet de l'exposé aujourd'hui. J'ai travaillé, mais ça vaut quand même le coup de le dire, j'ai travaillé une douzaine d'années en ONG. J'ai travaillé dans le réseau Caritas pendant 4 ans, et j'ai travaillé ensuite dans l'ONG Care International, que peut-être certains d'entre vous connaissent ici, qui est peut-être à l'origine une ONG américaine, et qui est aujourd'hui une ONG internationale, classée dans les 2 ou 3 premières ONG en nombre de personnel, en chiffre d'affaires, en budget, etc. Voilà, j'ai travaillé 12 ans dans le monde de l'ONG, je suis chez Areva depuis un peu plus de 2 ans et demi, et j'ai été embauché parce que, notamment, à CARE, on avait travaillé sur des partenariats avec des entreprises françaises, je dis bien des partenariats et pas du mécénat, et comme exemple, il y avait Lafarge, avec l'entreprise Lafarge sur les questions de SIDA. Lafarge s'était retrouvée en Afrique, projetée après le rachat d'un industriel britannique dans les années 99-2000 dans une dizaine de pays d'Afrique. On a aidé Lafarge à l'époque à mettre en place une politique SIDA. On avait travaillé, je ne vais pas aller en profondeur, mais on avait travaillé également avec le cabinet PricewaterhouseCoopers sur les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement dans les grandes villes des pays du Sud. On avait également travaillé avec une entreprise qui s'appelait à l'époque Havas Voyage, Thomas Cook France aujourd'hui, sur les questions de tourisme durable. Voilà. Je me suis retrouvé chez Areva donc, il y a 2 ans et demi. Areva, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est, en deux mots, la réunion de Cogema, Framatome et la branche transport-distribution d'Alstom, voilà, qui s'est rattachée à Areva en 2004, ça fait 4 ans. Donc aujourd'hui, Areva, c'est un peu ce qu'on appelle un modèle intégré du nucléaire, de la mine, en passant mine d'uranium donc, en passant par les centrales nucléaires, la construction de centrales, la maintenance des centrales, le recyclage, le traitement des déchets, et aussi donc le transport, la distribution d'électricité jusqu'à la haute tension. On n'est pas un EDF, on n'est pas un Suez, on ne distribue pas l'électricité jusqu'aux particuliers. Voilà ce que c'est aujourd'hui Areva, c'est 65 000 personnes environ, ça doit être 10 milliards de chiffre d'affaires. C'est un secteur, comme je l'ai entendu à la fin de l'exposé précédent, qui est en pleine expansion. Il y a 5 ou 10 ans, mais même il y a 5 ans, citez-moi quelques pays qui étaient preneurs du nucléaire, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous le voyez dans tous les voyages présidentiels, pour ne citer que ceux-là, la plupart des pays sur cette planète sont demandeurs du nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'ils en auront. En tout cas, l'énergie nucléaire, on peut le regretter ou on peut s'en réjouir, l'énergie nucléaire apparaît aux yeux d'un grand nombre de pays comme faisant partie de ce qui a été débattu il y a quelques minutes, du bouquet énergétique. Voilà. Après, l'avenir dira si oui ou non, ces pays qui en veulent en auront ou pas. Alors moi, le secteur minier, je voulais vous parler un petit peu de ça ce matin. Je vais me donner 1 quart d'heure, 20 minutes, et puis après on pourra échanger, et je pense qu'il faut que ce soit interactif pour que ce soit le plus intéressant possible, parce que je ne suis pas venu vous vendre quelque chose, simplement vous faire une présentation sur ce que je fais. Alors je ne vais pas vous décrire tout ce que je fais chez Areva, parce qu'il y a différentes choses qui sont assez différentes, Dans mes attributions, donc, je travaille au département développement durable sur les questions sociétales. Alors, les questions sociétales, c'est plusieurs aspects. Areva, le secteur minier, c'est quoi? Donc, le secteur minier chez Areva, c'est l'uranium, on est bien d'accord. Pour l'instant, c'est peu de pays. Concrètement, c'est le Niger. On a deux mines au Niger. On a des mines au Kazakhstan. On a des mines au Canada. Pour l'instant, c'est tout. Il faut qu'on a investi cet été dans différents pays. On a racheté un opérateur qui va nous amener dans d'autres pays d'Afrique, notamment la Namibie, l'Afrique du Sud, la Centrafrique, et puis d'autres pays dans lesquels il y a de l'exploration qui est actuellement menée. Au Niger, en deux mots, quelle est la situation? Je vous le fais rapide. N'hésitez pas à m'interrompre si ce que je dis n'est pas clair. Le Niger, vous connaissez peut-être, au moins vous savez où ça se trouve, au centre de l'Afrique, 11 millions d'habitants, un pays qui doit être grand comme à peu près deux fois la France, je crois, en superficie. Vous voyez que la densité n'est pas colossale. Aujourd'hui, Areva, le Niger, dernier pays du monde, en tout cas sur le classement 2005 du PNUD, je crois que le Niger a gagné deux ou trois places, ça ne fait pas pour autant lui un pays riche sur le dernier classement. Aujourd'hui, le Niger, donc, Areva y est depuis 35 ans, à peu près. Nous avons deux mines d'uranium qui sont à 1000-1200 km de Niamey, la capitale. Il faut, j'ai fait le trajet plusieurs fois, il faut 16 heures de route par la route pour gagner les mines. Ça doit être à 200-300 km de la frontière algérienne. Donc, il y a 35 ans, vous n'aviez rien d'autre que des populations nomades, des Touaregs, quelques chameaux, quelques arbustes, le désert. Aujourd'hui, vous avez, donc 35 ans après l'arrivée du groupe, qui ne s'appelait pas encore Areva à l'époque, en fait ce sont des filiales d'Areva qui sont sur place, vous avez aujourd'hui 100 000 habitants qui vivent là, en plein désert, 100 000 habitants, pas moins. Et sur ces 100 000 habitants, vous avez à peu près 2 000 salariés, et ce qu'on appelle 20-25 000 ayants droit, ce sont des familles, des salariés. Voyez un peu le contexte. Donc 35 ans que Areva est là, au départ il y avait quelques milliers de personnes, et puis petit à petit, effet d'attraction des villes, en fait il y a deux villes qui s'appellent Arlit et Akokan, vous avez peut-être entendu parler, et aujourd'hui donc vous avez 100 000 habitants avec un taux de croissance démographique qui est à peu près identique à ce qu'il est dans le reste du Niger, c'est-à-dire un doublement de la population locale, est-ce que ça continuera, j'en sais rien, mais un doublement de la population locale tous les 25 ans. Donc, c'est la situation actuelle d'Areva au Niger. Qu'est-ce qu'on a comme perspective aujourd'hui? Et là, on aborde les questions sociétales. Je vais volontairement me situer dans une perspective où je vais prendre deux extrêmes. Soit Areva, là je parle en termes de développement. Mettez-vous à la place d'Areva. Nous avons donc cette situation-là. Nous avons un pays qui est parmi les plus pauvres du monde. Nous avons 100 000 habitants qui sont autour. Et nous avons à faire des choix. Alors les choix, ils sont déjà en partie faits, mais est-ce les bons choix qui ont été faits? La question est là. Aujourd'hui, ces 100 000 habitants, en matière de santé par exemple, ils sont entièrement financés par les filiales d'Areva. Est-ce une bonne chose ou pas? C'est la question. Aujourd'hui, deux hôpitaux miniers, qui au départ, convention avec l'État du Niger, au départ, ces hôpitaux miniers étaient destinés aux salariés d'Areva et aux familles des salariés d'Areva. Et puis petit à petit, il y avait un hôpital public également à proximité, qui a fonctionné comme vous pouvez l'imaginer, en tout cas pas mieux que les autres hôpitaux publics du Niger, c'est-à-dire très mal, pour plein de raisons qui sont identiques dans toute l'Afrique et dans une bonne partie des pays en développement. Petit à petit, l'hôpital public qui était déjà pas brillant, et qui lui offrait, entre guillemets, une palette de soins de santé de qualité médiocre, qui n'était pas gratuit, même si le coût était modeste, évidemment, est tombé en complète désuétude face à des hôpitaux miniers entièrement financés par le groupe, offrant des soins de qualité, personne ne le conteste aujourd'hui et même alors, et gratuitement. Que s'est-il passé? L'ensemble de la population d'Arlit, petit à petit, a eu accès à ces hôpitaux miniers. On n'a évidemment pas mis des barbelés autour pour dire « est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes ayant droit ?» Ou est-ce que vous êtes ni l'un ni l'autre? Si vous êtes ni l'un ni l'autre, dommage pour vous, vous n'avez pas de soins. Sachant qu'on est vraiment sur la Lune. Gardez ça en tête. On est à 1200 km de la capitale et on est à 300 km d'Agadez, la ville régionale la plus proche. Donc Areva, et je ne tire pas de conclusion à ce stade, hein, Areva a fait le choix d'ouvrir ses hôpitaux. Mais c'était un choix aussi quasiment forcé. Hein. Mettre des barbelés autour des hôpitaux, je ne pense pas que ça aurait été une bonne solution. A ouvert ses hôpitaux. Aujourd'hui, l'ensemble de la population y a accès. La mine, le métier de la mine, et ce qu'on appelle le secteur extractif, que ce soit les mines, le pétrole, le gaz, par exemple, ce sont des secteurs dans lesquels vous avez une durée de vie limitée. Toute activité sur cette terre est limitée, mais en particulier lorsque vous exploitez une ressource, vous l'exploitez pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans, pendant 100 ans, pourquoi pas, mais un jour, la ressource n'est plus là. Car dans le lieu où vous l'exploitez, elle n'est pas par définition éternelle. Ce qui veut dire que nous sommes, et Areva n'échappe pas à la règle dans le secteur minier, nous sommes dans un secteur où normalement, lorsqu'on sort de son cœur de métier, et là je vous ai parlé de santé, c'est un exemple, on devrait se poser la question, que se passera-t-il une fois que l'opérateur, ici Areva, partira parce que la ressource ne sera plus là? Que se passera-t-il une fois que les mines seront épuisés. Et ça, c'est, vous avez la même problématique chez les pétroliers, vous avez la même problématique chez les gaziers, vous avez à la limite la même problématique, un peu différente parce que c'est plus du court terme, chez ceux qui font des grandes infrastructures dans les pays du Sud. Ils sont là pendant un an, deux ans, cinq ans, et puis après ils s'en vont, et ils ont souvent drainé des centaines ou des milliers de salariés, et ensuite ils s'en vont. Donc le dilemme, et c'est ça que, là-dessus je voudrais insister aujourd'hui, pour vous faire comprendre un petit peu les enjeux, le dilemme auquel est confronté Areva comme la plupart de l'industrie extractive, c'est quel est le rôle aujourd'hui d'une multinationale sur une question aussi vaste que celle du développement. Alors, un extrême serait de dire, nous, Areva, le développement, c'est pas notre métier, on n'y connaît rien, c'est pas notre problème, nous on extrait l'uranium, on partage ça selon des modèles, pas dit, évidemment, les autorités nigériennes sont actionnaires des mines, il y a des pays étrangers qui sont actionnaires des mines, donc chacun en retire sa part. Mais nous, le développement, c'est pas notre problème. Ça pourrait être une perspective. L'autre perspective, oui.
Vous pouvez préciser les parts de l'État, justement.
Je ne sais pas par cœur. Il y a deux mines. Je peux vous dire que sur une mine, les Japonais sont actionnaires en partie. Si c'est votre question, arrive à majoritaire sur une mine et minoritaire sur l'autre.
Oui, mais je parle de l'État.
L'État nigérien, je ne peux pas vous dire, l'État nigérien est majoritaire sur une mine et minoritaire sur l'autre, vous permutez avec Areva, et en plus de ça, vous avez les Espagnols, les Japonais, et puis, je ne saurais pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière votre question?
Non, il y a que, bon, vous construisez des hôpitaux, la Marseille, dans un endroit comme ça, mais l'argent, normalement, de l'exploitation de la mine, elle devrait revenir à l'État nigérian, qui lui ferait une répartition dans le pays, qui serait que tout simplement mettre un petit peu de journal là où vous êtes en train de prendre de l'argent.
Et sur les questions de développement, c'est le modèle minier global qui est à considérer. Hein. C'est clair que. Alors, abordons juste une aparté là-dessus, peut-être après je reprendrai, mais faisons juste une aparté là-dessus. Le modèle de. Derrière toutes ces questions-là, il y a bien le modèle minier, le partage des ressources. Et le partage des bénéfices dans le sens large du terme. Okay, je ne suis pas en train de dire que selon que Areva ou des opérateurs utiliseraient bien une partie des financements pour construire ou pas des hôpitaux qui financeraient en totalité ou pas, ça change du tout au tout. Et ce que je voulais dire, donc ça c'est l'ensemble du modèle minier. De la même manière, on peut dire aujourd'hui, on peut questionner, on peut s'interroger, on peut dire, la ressource aujourd'hui, l'uranium, voilà le chiffre d'affaires, voilà le prix potentiel de la ressource. Comment doit-il être partagé entre les acteurs? Ça, c'est la question globale, c'est une vraie question. Aujourd'hui, je ne prétends pas mettre tout ça sur la table. Mais de fait, lorsqu'on aborde ces questions-là, lorsque je dis quelle est la contribution qu'un opérateur comme Areva ou ses filiales doivent apporter en termes de développement, c'est évidemment non seulement la contribution financière, mais c'est leur responsabilité. Jusqu'où va-t-elle, où s'arrête-t-elle sur cette question de développement? Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Bon, je vais poursuivre l'exposé et puis vous reviendrez si j'ai pas répondu à vos questions. Ce que je veux dire, c'est que si on prend tous les aspects, ça va être compliqué. Bon. Sur la question du développement, aujourd'hui, donc, ce que je disais, c'est qu'un extrême consisterait à dire que ce n'est pas notre problème. Nous, on extrait l'uranium, on partage les bénéfices avec l'État nigérien suivant le pourcentage d'actions sur chacune des mines, et on s'en tire comme ça. Soit on dit, Areva a une responsabilité sur la question du développement, et quelle est-elle? Donc, Un extrême serait de dire « c'est pas à nous », l'autre extrême serait de dire « on va financer l'intégralité des services, ne serait-ce que l'intégralité des services localement ». Il y a quand même 100 000 personnes, c'est pas négligeable, certes c'est pas l'ensemble du Niger, c'est pas 11 millions de personnes, mais il y a 100 000 personnes localement. L'autre option serait de dire « Areva va prendre en charge la totalité de l'accès aux services de base, la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, l'électricité, etc. etc. » Donc aujourd'hui, vous voyez que le dilemme chez Areva, c'est le choix qui est fait là-dessus. Et bien sûr, ça rejoint le partage des ressources, le partage des bénéfices qui est fait globalement. Voilà. Bon, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que sur ces thématiques de développement-là, il y a des vraies interrogations du secteur minier, du secteur extractif, et qu'il est important... il est important de voir quelle est la responsabilité des multinationales. Si je vous ai donné les deux voies possibles, c'est que le secteur minier ou pétrolier, jusqu'ici, dans le meilleur des cas, a fait de l'assistance, on dirait chez nous du paternalisme. C'est-à-dire que pour, sans doute, à une époque qui n'est pas si lointaine, pour se dédouaner, les grands opérateurs se sont dit « nous extrayons, entre guillemets, de la richesse, et donc on va favoriser... » un certain développement local. Mais le développement local, en fait, ce qu'ils ont fait en termes de développement, c'est de l'assistance. Je ne sais pas si pour vous, ces notions sont familières ou pas. Dire aujourd'hui que moi, opérateur pétrolier ou minier, je vais financer un hôpital à proximité de ma mine ou de mon gisement de pétrole, je vais construire un bâtiment en dur, c'est pas forcément du développement. Il n'en reste pas forcément quelque chose le jour où vous partez. Parce que vous avez construit un bâtiment, peut-être, il est superbe, il y a peut-être l'équipement à l'intérieur, mais il n'y a pas la dynamique de développement qui permet qu'il reste des choses le jour où vous partez. J'ai souvent l'habitude de dire chez Areva, est-ce que ce que nous organisons ou ce à quoi nous contribuons dans l'environnement local des mines, est-ce que ça contribue à créer de la dépendance ou est-ce que ça contribue à créer de l'indépendance ? Faut-il mesurer l'efficacité d'un opérateur comme Areva uniquement à sa capacité technique de faire son métier, d'extraire de l'uranium en temps et en heure, avec au meilleur coût possible, etc., etc. Ou la responsabilité d'un opérateur comme Areva n'est-elle pas aussi de définir son rôle et de laisser quelque chose, un leg, on pourrait appeler ça, il paraît que ça s'appelle comme ça, j'ai entendu ce terme. J'ai entendu le terme de legs civilisationnel. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je l'ai entendu. Est-ce que, après 30 ans ou 50 ans de présence, on pourra dire l'uranium est épuisé, au revoir, sans avoir laissé autre chose que des emplois créés pendant 30 ans ou 50 ans, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais est-ce suffisant? C'est ça la question. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, y compris dans l'industrie extractive, qui disent « Nous avons la responsabilité, en tant qu'opérateurs miniers, pétroliers, gaziers, par exemple, de nous interroger sur ce que nous apportons. Quelle est notre contribution au développement, au-delà des emplois créés, au-delà de la richesse induite ? L'uranium, peut-être que les ratios de partage ne sont pas suffisants, peut-être que les rapports de force qui actuellement, même si c'est lent, se rééquilibrent sur les pays du Sud, peut-être que ces rapports de force vont faire évoluer un partage qui sera davantage à l'avantage des pays du Sud. Donc les opérateurs ont intérêt à se demander aujourd'hui quelle est notre contribution à ces questions de développement. Oui.
Je comprends pas, parce qu'on a l'impression que vous voulez intégrer le monde de l'uranium.
Alors, la question à qui appartient la ressource, ça c'est la question centrale. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Aujourd'hui, le Niger n'a pas de centrale nucléaire, donc ils n'en ont pas d'utilisation pour eux. La ressource leur appartient, au sens où elle se trouve sur leur territoire, oui. Et aujourd'hui, pour en tirer une richesse, ils ont besoin de gens, que ce soit les Chinois, peut-être un jour les Indiens, les Canadiens ou les Français, qui ils ont besoin de gens techniquement pour pouvoir extraire la ressource. Après, la question est quelle part devrait leur revenir ? Quelle part, ça, c'est la question globale de quelle part revient à celui qui exploite ? Quelle part doit revenir à celui dans le pays duquel se trouve la ressource ? Mais aujourd'hui, si on dit aux Nigériens. Oui.
Le vrai développement, ce serait de prendre des gens pour qu'ils puissent exploiter eux-mêmes leur ressource.
Suggestion, oui.
Non, mais suggestion, je suis désolé, mais vous nous la jouez naïve, là, mais vous savez très bien, je veux dire. C'est des grandes compagnies du style comme ça. Enfin, si on prend le pétrolier, par exemple, on prend Total, PNAF, des choses comme ça. On sait très bien depuis longtemps qu'il y a de la corruption, qu'il y a énormément d'argent qui est retiré, qu'il n'y a rien qui revient, sauf quand il y a des dirigeants corrompus qui nous permettent de contrôler assez facilement les retombées. Vous le savez très bien, si ça n'a pas été fait, enfin, vous dites que vous ne venez pas nous vendre la technologie, certainement, mais vous venez quand même nous vendre une image d'Areva qui est complètement fausse, puisque vous savez très bien que si ça fait 35 ans qu'ils sont au Niger, Areva, c'était pas, s'ils n'ont pas développé justement, c'était pas dans des buts vains. Il n'y a jamais eu de but philanthropique. S'ils se disent qu'ils ont intérêt à mettre des hôpitaux, et que ce n'est pas de la philanthropie, c'est qu'ils ont intérêt.
Alors je vous rejoins complètement. Et c'est la bonne nouvelle, non mais c'est la bonne nouvelle du 21e siècle. Pourquoi je dis ça ? Une société n'est pas philanthropique, je vous confirme. Une société n'est pas philanthropique. Si dans mon propos, j'ai laissé entendre que Areva faisait ça par philanthropie, excusez-moi, il y a malentendu. Là où je pense, les intérêts d'Areva, vous mentionnez Total, je ne vais pas parler au nom de Total, je ne les connais pas, mais les intérêts d'Areva, je peux vous dire, sont qu'il y a peut-être 10 ans encore, on aurait pu se dire, le développement, ce n'est pas notre problème, et de toute façon, si on n'en tient pas compte, ce qui n'a pas été fait, j'espère l'avoir montré, mais ça l'a été fait de manière qui correspondait à une époque qui n'est plus adaptée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dire qu'Areva comprend les enjeux de développement, c'est dire qu'Areva comprend aussi le lien qu'il peut y avoir entre son développement et ses entre le développement du Niger et ses intérêts en tant qu'entreprise. Qui peut s'imaginer qu'Areva sera encore au Niger dans 10 ans si on n'est pas capable de comprendre que le Niger a des attentes en termes de développement ? C'est un peu peut-être cynique, mais c'est un constat de le dire. Pour l'instant, ça a été possible. Même si vous allez à Arlit et vous demandez aux populations environnantes, c'est là qu'elles sont mieux soignées. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'on ne peut pas attendre d'un opérateur qu'il apporte simplement la qualité sur des hôpitaux pendant 30 ans. Que resterait-il après le départ d'Areva dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans si aujourd'hui on se contente, entre guillemets, si on se contente de promouvoir de la santé sur Arlit? Il ne restera rien. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'Areva a intérêt, comme d'autres, à s'apercevoir que les questions de développement ne sont pas d'un côté, ne sont pas antinomiques avec ses propres intérêts. Est-ce que ça répond ou pas à ce que vous dites ? C'est forcément incomplet, mais...
Non, mais enfin, je veux dire, quand vous dites Areva a intérêt à dans 35 ans qu'il reste quelque chose de leur action, ça, c'est typiquement... vous me faites passer l'idée qu'il y a quand même de la philanthropie un petit peu dans l'action de Areva. Bah, sinon,
alors, je vais éclaircir ça.
Prenez l'exemple de Total. L'intérêt est une question clé pour essayer d'avoir au moins un langage commun, même si on ne peut pas être d'accord sur les choix et les directions. Mais effectivement... comprendre, pour qu'il y ait un minimum de légitimité à ce genre d'initiative et au principe même de responsabilité sociale et environnementale, au principe même, que ce soit d'Areva ou d'autres, pour qu'il y ait un minimum de légitimité et de crédibilité, effectivement, il faut pouvoir croire, de manière un peu raisonnée, à un intérêt. Hein, parce qu'effectivement, une société n'a pas prétention à, enfin, elle n'a pas même nature à, pour peu qu'il y ait une nature des entreprises, mais elle n'a pas nature à avoir une activité philanthropique, ou souvent, c'est un paternalisme dont on ne veut pas trop non plus. Donc, quelque chose qui n'est pas évident, peut-être faudrait-il un moment donné que vous abordiez ça, c'est par quel mécanisme pourrait-il y avoir une possibilité pour une entreprise, fût-elle une grande multinationale, fût-elle Areva ou l'autre, à avoir effectivement intérêt, pour être bien égoïste, à participer au développement.
Alors j'espère vous éclairer là-dessus, vous avez cité Total. Total, vous prenez Total dans le delta du Niger. Le delta du Niger, c'est le Nigeria. Aujourd'hui, si vous avez lu un peu la presse depuis pas mal d'années là-dessus, et même si vous écoutez les variations de cours du pétrole, une fois sur deux, on vous dit, une des causes, parce que le pétrole a gagné 3 dollars la semaine dernière, on vous dit, une des causes de ça, c'est le conflit dans le delta du Niger. OK ? Qu'est-ce qui se passe dans le delta du Niger actuellement ? Vous avez un certain nombre de compagnies, dont Total, vous avez Exxon, vous avez BP, vous avez Shell. Bon. Que se passe-t-il aujourd'hui ? vous avez un niveau de la production globale de pétrole dans le delta du Niger qui est sans doute de 20 à 30% largement inférieur à ce qu'elle serait si la zone était pacifiée. Ce qu'elle était il y a 20 ans, elle ne l'est plus aujourd'hui. C'est pas moi qui les invente, hein, c'est les chiffres de la presse.
Quel serait, si ça avait été pacifié il y a 20 ans, il n'y a personne qui peut être capable de dire ce que ce serait si ça avait été pacifié il y a 20 ans.
Non mais, très concrètement, pourquoi on dit ça aujourd'hui? Vous avez des oléoducs qui sautent tous les mois. Vous avez des populations locales, des conflits locaux très importants. Vous avez des salariés locaux qui sont menacés, salariés des compagnies pétrolières, hein, c'est de ça dont je parle. Vous avez des menaces sur la sécurité, sur les expatriés, sur le personnel local. Vous avez des conflits locaux. Et c'est pas très compliqué de chiffrer, à partir de prévisions, de tendances, qu'est-ce qu'aurait été la production de pétrole si la zone avait été un peu plus calme. C'est pas très compliqué.